Il est 6h40, vous écoutez France Culture, bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, pardon.
Et Jacques, un triste décompte pour débuter votre journal des idées ce matin. On déplore depuis hier le 105e féminicide de l'année en France.
Oui. Sans connaître ce dernier cas, la dramaturge américaine Eve Ensler, auteure notamment de la pièce Les monologues du vagin, s'insurge dans le monde contre cette forme extrême de violence envers les femmes qu'elle analyse comme un symptôme de notre société patriarcale et plus largement du système qui produit les inégalités, la crise du climat, le racisme, lié à l'immigration, l'homophobie. Elle parle de convergence des oppressions. La mise en œuvre de politiques en faveur du climat et dans le domaine de l'accueil des réfugiés est directement liée à la lutte contre les violences faites aux femmes qui sont toujours les plus touchées par ces crises. Le fond de son raisonnement est que la manière dont certains hommes au pouvoir traitent notre planète est la même que celle dont ils voient les femmes. Et elle évoque le Centre pour les victimes de viols de guerre en République démocratique du Congo, créé avec le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, la cité de la joie, un lieu où elles peuvent reprendre des forces et trouver une voie de guérison en apprenant leurs droits. Là, elles acquièrent aussi la capacité de changer leur communauté. L'idée de transformer la douleur des femmes en pouvoir représente un modèle puissant qui peut être reproduit partout dans le monde, conclut Eve Ensler. Dans l'Obs, Heide Göttner-Abendroth témoigne en faveur des sociétés matriarcales qu'elle a longuement enquêté de par le monde. Ces sociétés ne sont pas dominées par les femmes au sens où les nôtres le sont par les hommes, explique-t-elle. Elles sont égalitaires, sans hiérarchie. Simplement, les femmes ont la capacité de donner la vie et pour cette raison font l'objet d'un grand respect et d'une vénération d'où dérivent les valeurs morales et spirituelles, des valeurs morales fondamentalement différentes des nôtres. Son livre « Les sociétés matriarcales » recherche sur les culture autochtone à travers le monde, apparaître le 19 septembre aux éditions des Femmes, et j'y reviendrai le moment venu, parce que c'est une somme constituée par une véritable somme, donc par ces nombreuses enquêtes de terrain, les Iroquois, les Musuos du sud-ouest de la Chine, les Kuna de Colombie, des peuples de Polynésie ou du Mexique, ainsi que par l'étude de la documentation ethnologique et archéologique, celle aussi des journalistes, voyageurs et aventuriers. Dans ces sociétés matriarcales, les rôles ne sont pas fixés en fonction du genre. Dans les îles Tonga, en Polynésie par exemple, écrit-elle, les hommes prennent soin des enfants, préparent la nourriture et servent à table. Chez certains peuples, les femmes cultivent, construisent les maisons ou bien sont chamanes. Dans d'autres, ce sont des tâches masculines. Elle explique notamment les nombreuses attestations de cultes anciens rendus à des divinités féminines et au-delà à la déesse mère, notre terre commune. Sitôt que les groupes se sont sédentarisés avec l'agriculture, la question de la généalogie et de la lignée s'est posée, celle des femmes étant la seule certaine. Et lorsque les humains ont découvert la lignée maternelle, ils l'ont prolongée dans l'au-delà jusqu'à la première ancêtre, une sorte d'Ève originelle. Chaque clan vénérait son ancêtre, mais cela pouvait être aussi... pardon, une rivière ou une montagne, puisque tout est sacré, chaque brin d'herbe, chaque caillou. La terre a été vue comme une grande déesse, la terre-mère, une entité sacrée dont tous les humains font partie. Heide Göttner-Abendroth insiste sur l'influence positive des comportements sociaux libérés de la hiérarchie du genre. Elle se prend à rêver que les jeunes femmes élevant seules leurs enfants et qui représentent le maillon le plus pauvre, le plus vulnérable dans nos sociétés, puissent se regrouper, choisir d'habiter les mêmes quartiers, les mêmes immeubles et changer ainsi la donne, enclencher d'autres dynamiques. Dans les pages idées de Libération, deux économistes font le bilan de la loi de janvier 2011 qui a instauré des quotas de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Antoine Robert-Hugh et Gwenaëlle Roudot observent que si elle a bien permis de briser le fameux plafond de verre à l'entrée, elle n'a pas mis fin à une forme de ségrégation en interne. Aux hommes, les domaines de la stratégie, du contrôle de l'audit ou de la nomination rémunération des dirigeants, aux femmes la politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises, avec la différence de rémunération afférente. Pourtant, une étude récente s'est intéressée à l'impact de la diversité de genre au sein des conseils sur la performance économique des entreprises européennes cotées. En cette matière, leur part compte moins que leur place, celle-ci se mesurant précisément à l'accès au comité d'audit et de nomination rémunération. Conclusion, l'égalité réelle ne se mesure pas seulement à l'équirépartition des sièges, mais aussi aux marges de manœuvre qui sont conférées à chacun des deux genres.